pourquoi la French Touch.
C'était un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont fait.
C'est quoi la French Touch? Ça ne voulait pas dire grand chose.
C'est un sacré bleu, Dimitri, oui, 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 baguette.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne, quoi.
Épisode 5, Versailles.
Versailles, c'est un peu une ville dortoir où tout le monde travaille. Il n'y a pas de grosse vie. Ça a changé. Hein. C'était il y a presque 30 ans.
Alex Goffer.
Bah, assez peu de vie culturelle. Bon, un théâtre, un cinéma. Mais pour un jeune de 17 ans ou de 16 ans, on s'emmerde très très vite. Et du coup, c'était excitant pour nous d'avoir... La musique qui nous rassemblait dans une démarche qui soit alternative par rapport à la voie tracée qu'a priori Versailles pouvait nous, vers laquelle Versailles pouvait nous mener. Alors moi j'étais au lycée Jules Ferry de Versailles, donc était un peu le lycée de ceux qui étaient plutôt des cancres à l'école. Et j'ai rencontré à Jules Ferry Étienne de Crécy, Jean-Benoît Dinkel de R, Nicolas Godin de R. Ils n'étaient pas copains, moi j'étais copain avec l'un et l'autre. On a fini par être dans le même groupe. Arnaud Robotini, un peu plus jeune que nous, mais dans le même lycée. Marc Tessier-Ducrot, alors qui n'est pas musicien, mais qui était embauché par le label Source, monté par Philippe Ascoli à l'époque. On a tous le même âge, en tout cas, ouais. Ben, on était tous, comme je disais, un peu cancre. Donc moi, j'ai fait deux premières de terminale. Donc j'ai passé du temps à Jules Ferry.
J'étais un bon élève, correct.
Étienne de Crécy.
C'est nous qui étions au lycée ensemble avec Jean-Benoît et Nicolas. On était dans le même lycée. En tout cas, au moins pendant un an avec Nicolas, qui après avait été allé dans un autre lycée. Il y avait aussi Alex Goffer. Et ensuite, effectivement, Phoenix, mais qui était la génération d'en dessous. À l'époque où j'habitais Versailles, je ne les fréquentais pas. On se fréquente à Versailles.
On veut faire de la musique. On sait qu'on veut faire de la musique. C'est le début des années 90. À Jules Ferry, il y avait plein de groupes de musique, il y avait plein de groupes de rock. On est tous très influencés par la New Wave. Joy Division, New Order à fond, David Bowie énormément, et Nicolas Godin, beaucoup moins New Wave. Je parle de lui parce qu'on était très potes et qu'on a fait beaucoup de musique ensemble à l'époque. Mais lui qui me fait découvrir plutôt les Beatles, Prince. C'est-à-dire qu'on a tous commencé avec des groupes de rock, comme je disais. Et très vite, on s'est rendu compte de nos limites. À part Jean-Benoît, qui était très fort au piano, nous, on était plutôt... Ça allait quand on voulait faire de la New Wave et du punk, parce qu'il n'y a pas besoin d'être très fort en tant qu'interprète. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres vérités musicales, influencées sans doute par ce qui se passait dans la musique à ce moment-là. L'arrivée du rap et du hip-hop, et des machines qui allaient avec le sampleur et les premiers ordis pour séquencer. Et donc, assez vite, moi, le 8-piste, avec Nicolas, on s'est dit qu'il faut qu'on remplace le 8-piste par un sampleur. Et je pense que la technologie nous a emmenés aussi vers une autre musique.
Donc les fans de musique à Versailles, on n'était pas très nombreux, donc on s'est retrouvés. C'est quand même un... Alors ça va faire un peu vieux ce que je dis, mais c'est vrai que c'est une époque où le streaming n'existait pas. Donc écouter de la musique, c'était un budget. Il n'y avait que les passionnés, en fait, qui écoutaient de la musique, enfin, sauf ceux qui écoutaient la radio. Mais sinon, t'achetais des disques, déjà t'étais un passionné de musique, parce que tu mettais toute ta thune dans les disques, c'était cher. Donc les passionnés de musique, on s'est retrouvés assez vite. Et assez rapidement, il y a eu ce truc-là de faire des groupes de musique et de jouer de la musique. Donc il y avait une bande assez solide de personnes qui étaient suffisamment passionnées pour écouter, acheter des disques et acheter des instruments de musique et jouer. Et ensuite, parmi tous ces gens, c'est vrai que j'ai été un des premiers, moi, à rentrer professionnellement dans le monde de la musique en travaillant au Studio Plus 30, où je suis devenu l'assistant de Philippe Zdar. Et donc, tout d'un coup, j'ai eu un pied dans l'industrie. Et effectivement, quand il y avait le groupe de Nicolas Godin, Jean-Benoît et Jean Doré qui s'appelait Orange, il y a Alex Goffer était dedans aussi. Donc ils faisaient des maquettes, on avait pu mixer un morceau dans le studio la nuit, comme ça.
Et moi, comme j'avais déjà ces velléités d'ingé son, j'avais un 8-piste. Et le fait d'avoir un 8-piste, j'intéressais beaucoup de monde. Parce qu'il fallait enregistrer des maquettes. Un 8-piste à l'époque, c'était cher. J'avais revendu un Vespa pour acheter le 8-piste à l'époque. Les gens savaient que j'enregistrais le groupe Orange que j'avais avec... Nicolas Gaudin, Jean-Benoît qui sont devenus R. On avait notre groupe, en plus d'être le bassiste, j'étais l'ingénieur du son attitré. Et du coup, le 8 pistes attirait tout le monde. Et je pense que, avec Étienne, notre vraie rencontre, c'est quand j'ai été enregistrer son groupe Louba, qu'il avait monté avec Pierre-Michel Levallois à la guitare, qui a monté solide avec nous après. Et du coup, je pense qu'on a très vite parlé musique à cause de ça. Et puis, en fait, il y avait une espèce d'émulation entre les différents groupes de... On faisait du rock tous à l'époque. On allait s'écouter un peu les uns les autres, voir ce que les autres faisaient, on s'écoutait. Et du coup, c'est forcément les premières rencontres avec Étienne, c'était déjà pour la musique.
Juste après ça, on a monté le label Solide avec Pierre-Michel et Alex. Et donc, quand Marc Tessier-Ducrot a signé R chez Source, il m'a dit, Nicolas a fait un morceau, et il est super, il faudrait peut-être l'éditer un peu, est-ce que tu veux pas t'en occuper? Et donc, moi, j'ai dit oui, on a loué du matériel, on est dans le grenier chez les parents de Pierre-Michel, on a mixé le morceau, le Modular Mix.
Il faut savoir que le premier titre de R était produit sur le label Solide.
Alex Goffer.
Étienne et moi, on avait loué une console digitale, une Lexicon 480. Je joue la basse sur le titre. Mais le moduleur, c'est pas de la French Touch, quoi. Ça, c'est presque à l'époque, les gens appelaient ça de l'easy listening presque. Enfin, c'était ou de l'acid jazz. Enfin, il y avait toutes ces étiquettes qui sont venues après, ce n'existait pas à l'époque.
Commencé la musique ensemble avec Étienne, il a été à l'origine de notre premier single.
Nicolas Gaudin, moitié de R.
Plein de souvenirs de Versailles, de groupes de rock, de cours de lycée, de collège, parce qu'avec Phoenix, on était dans le même collège.
Et ce truc sur la compile a eu un succès qui fait que Nicolas et Jean-Benoît, tout d'un coup, ont décollé d'une manière absolument incroyable, grâce à leur talent, bien entendu. Mais c'est vrai que ce premier morceau, j'étais là, c'était marrant. Source Lab, donc c'était le label Source, le label de Philippe Ascoli, et c'était Marc Tessier-Ducrot qui était aussi DA.
Étienne de Crécy.
Marc, c'est un copain d'enfance, en fait, on était au lycée ensemble, il faisait partie de cette bande, justement, avec Alex Goffer, avec Nicolas et Jean-Benoît de R, tout ça. Et donc c'est vrai que lui a été connecté, c'est lui qui a amené R dans la première compilation Source Lab. Philippe, c'est historiquement un directeur artistique de talent. Qui avait signé beaucoup de trucs super dans les maisons de disques, on va dire conventionnelles, hein, donc chansons françaises, variétés. Quand il a monté son label, donc il y a eu ce truc de Source Lab en disant il y a un truc qui existe en ce moment, faisons une compile. C'est des petits artistes qui débutent, ça coûte pas cher, on peut leur acheter les morceaux pour presque rien. Non, je rigole, c'était pas ça la motivation, c'était effectivement, il y avait ce truc qui bouillonnait. On n'était pas très nombreux en fait à s'intéresser à cette musique, donc c'est un peu normal que dans le casting on ait été tous là.
Commencé de très très bas. Hein.
Thomas, Christian et Deck du groupe Phoenix.
À la base, déjà le fait de venir de Versailles fait qu'il n'y a pas de salle de concert, donc on était vraiment un groupe de studio. Nous, le plaisir qu'on avait, c'était de faire des disques dans la cave de mes parents, de produire comme les Beach Boys, mais surtout pas de jouer en live.
On avait un fantasme, c'est les Beach Boys et les Beatles.
On a commencé la musique adolescent avec des guitares, mais on a toujours été fasciné par Kraftwerk, par exemple.
Le fait de grandir à Versailles, il n'y avait pas vraiment de public, ça ne donnait pas envie de faire des concerts. Son grand frère, Laurent, quand il est venu dans le groupe, d'ailleurs, il est venu avec l'intention, quand Darlene s'est séparée, il est venu avec l'intention d'être le marionnettiste, notre marionnettiste. Et puis il a vu que c'était la camaraderie, c'était supérieur à l'ennui du le côté producteur à l'aspect tour. Et c'était pas si glamour, et faire partie d'un groupe, c'était quand même. Donc on est tous devenus producteurs. On a acheté un 4 pistes, on a acheté un 8 pistes, après on a. Et c'est fascinant, ouais, là, on a eu beaucoup plus de plaisir au début à faire nos disques nous-mêmes qu'à jouer en live.
Ado, il y a eu tout ce courant de musique électronique.
Christian, du groupe Phoenix.
Qui nous a fascinés. On a surtout pris la méthode d'enregistrement. On achetait un peu dès notre premier album, on achetait les mêmes matériels que Daft Punk, par exemple. On avait les mêmes compresseurs, des trucs qui n'étaient pas faits pour le rock à la base. Finalement, on a toujours été un peu électronique. D'ailleurs, au début, il y a plein de journalistes qui croyaient qu'on était comme c'était l'époque de la French Touch, croyaient qu'on était des DJ, ils savaient même pas. Parce qu'on avait quelques morceaux qui étaient un peu dansants.
Heatwave,
exact. Le premier qui était un instrumental, ouais, de house presque. Ouais.
Heatwave, il a brouillé les pistes. Il nous a valu une chronique dans Mix Mag, je crois. On a eu 0 sur 10. Ce qui est notre meilleure chronique, en fait. Mais 0, je crois qu'il s'attendait à un album d'électronique et c'était une trahison. Le genre pour le truc qui est venu, en plus qui était fragile parce que c'était en train de naître.
Le premier concert était on était un petit peu frais, un petit peu vert.
Jean-Benoît Dinkel, moitié de R.
Mais on travaillait avec des musiciens américains qui avaient l'habitude de tourner parce qu'ils travaillaient avec Beck déjà. Ouais. Donc du coup, voilà, on était vachement épaulés par eux au début. Ça nous a donné beaucoup confiance. Et puis aussi, on a commencé par des concerts à la télé, en fait, avec les Phoenix. Tout ça, en fait, on a beaucoup appris les uns des autres.
It's their first time ever on British television. And it's a thrill to have them here. With Kelly, Watch the Stars, please welcome Air.
La première fois qu'on était sur scène ensemble, c'était pendant la promotion de Moon Safari, puisque Phoenix nous ont aidés à faire les émissions en live qu'on devait faire.
Kelly, Watch the Stars. Kelly, Watch the Stars.
Voilà, ça fait quand même depuis 1999, 2000, donc il y a 25 ans.
Je pense qu'il faut que les gens sachent qu'historiquement, c'est Thomas, notre chanteur Thomas Mars.
Beck, du groupe Phoenix.
Qui est le batteur du groupe, en fait. C'est lui qui fait les batteries. Mais évidemment, pas toujours envie de jouer de la batterie tout en chantant sur scène. Donc il nous a toujours fallu un batteur pour pouvoir le faire.
J'étais batteur avec R. J'ai tout perdu depuis. Quand des fois je prends la batterie au soundcheck, j'ai tout perdu.
Secrète de la French Touch, épisode 5, Versailles.
Le succès du disque a été...
Nicolas Godin, moitié de R.
Justement, du fait de cet amour des synthés, de ces sons assez romantiques qu'on arrivait à faire avec, parce que jusqu'à présent, les synthétiseurs analogiques étaient plutôt... n'avaient pas tellement cette place douce et romantique qu'on a... C'est un aspect de la montagne qu'on a... C'est une face de la montagne qu'on a grimpée. Ça a un peu fait notre marque de fabrique.
Ouais, c'est la synthèse de plein d'influences.
Jean-Benoît Dinkel, moitié de R.
Je pense que déjà, il y a beaucoup de notre mélancolie enfantine dedans. C'est aussi, c'était un peu un adieu à notre enfance parce qu'on rentrait dans la vie professionnelle. On rentrait aussi dans une vie familiale. Donc du coup, c'était on voulait en fait laisser une empreinte de toutes nos influences et de toute notre mélancolie adolescente et notre enfance en fait. Et je crois que ça a vachement joué dans le côté enfantin du son de Mon Safari.
L'imagerie versaillaise, elle est venue petit à petit. Je sais quand on a...
Thomas Mars, du groupe Phoenix.
Joué dans Marie-Antoinette, furtivement, qu'on a écrit les morceaux. Après, on s'est retrouvés en concert, on a commencé un peu à amener l'imagerie, que ce soit même Rameau. Je sais que nous, on jouait au foot l'après-midi chez mes parents le dimanche, et il y avait Rameau en fond qu'on entendait dans la pièce d'eau des Suisses, à fond la caisse, au bassin de Neptune, pardon. Et donc... Maintenant, on monte sur scène avec parfois Lully, parfois Rameau, parce que c'est juste des souvenirs qu'on a aimés quand on était jeune et ça nous rappelle les parties de foot chez mes parents. Et puis, c'est vrai qu'il y a des pays où c'était parfois plus délicat d'arriver avec une imagerie versaillaise. Pendant des années, c'était délicat. C'était un peu... c'était presque une provocation même dans certains festivals au début. Maintenant, ça l'est plus, ouais. Et le live, c'est venu, le plaisir est venu tard. Il est venu peut-être en 2006, je dirais. Parce que même les deux premiers albums, on était, même si on prenait un plaisir à voyager tous les quatre ensemble, sur scène, c'était quand même compliqué. On avait des formations parfois à 10, 12, je crois. Enfin, voilà, on comblait avec quantitativement la qualité.
Concert. Moi, quand on a vu la différence quand ils ont fait la tournée.
Philippe Sdard.
Phoenix, ils avaient fait 255 dates. Putain, tu voulais faire jouer les mains dans le dos avec un pied dans l'azote liquide, l'autre sur une plaque chauffante. Il n'y avait aucun problème. C'est normal, c'est aussi ça. Il faut jouer, il faut s'entraîner, il faut tout le temps. Je suis persuadé, mais j'en suis persuadé. Alors oui, il y a des mecs qui naissent avec des habiletés. Et je sais que Zinedine Zidane était un mec qui était plus fort que les autres. Mais il devait s'entraîner. C'est obligatoire.
On a fait un concert qui nous a bien plu parce qu'on avait invité Daft Punk secrètement.
Branco, du groupe Phoenix.
Ils étaient arrivés à la fin de notre concert. On avait fait un mélange de morceaux, c'était pas mal. C'était un moment émouvant. Le premier groupe, c'était avec Thomas et Guy Manuel. De se retrouver sur scène, c'était pas mal. Je pense que les autres étaient contents aussi. Qu'est-ce que t'en dis, Thomas ?
Même garder le secret, c'était un des trucs les plus jouissifs. Tu savais que les agents, ils ont tendance à un peu parler rapidement. Donc on avait mis des kabuki, des genres de rideaux géants sur le côté de la scène pour cacher les Daft parce qu'ils voulaient essayer de jouer en costume pour être dans les conditions du live. On s'est retrouvé la veille, je crois, dans un studio minable, tout petit, avec des mecs, les studios américains où les ascenseurs sont explosés. Et se dire qu'on allait faire un truc qui allait faire parler, c'était assez jouissif d'être juste nous, la petite bande, dans ce secret-là. Développer les concepts ensemble le temps d'une soirée, c'était ultra kiffant. Ouais. Très peu de personnes qui savaient comment exporter un disque et même organiser des tournées à l'étranger. Donc on était tous solidaires les uns des autres. Pedro Winter a appris à notre manager, lui a donné quelques conseils, des numéros de bus de tournée. Il y avait tout à créer et tout à apprendre. Donc ça a tissé des liens supplémentaires entre toute cette génération qui a commencé à cette époque.
Suivre, épisode 6, des rêves et des clubs.
J'ai bien aimé les rêves au début, mais le fait de jouer dans les clubs m'a toujours plus attiré. On a ramené la musique de rêve dans les clubs, j'ai fait le Palace jusqu'à la fermeture du Palace, j'ai fait le Boy jusqu'à la fermeture du Boy, et puis après j'ai commencé au Rex et j'ai plus rien fait d'autre.
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter.